Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Se souvenir des belles choses de la vie, une journée d'été au bord de l'eau, l'odeur d'un sous-bois, le premier baiser avec sa moitié, le premier film au cinéma avec ses parents, l'odeur des beignets de sa grand-mère, et se souvenir également des jours gris et noirs, une rupture, l'annonce d'une maladie, un deuil, un licenciement. Pourquoi certains souvenirs imprègnent fortement notre mémoire et d'autres s'envolent sans laisser de traces? Et puis à quoi servent-ils tous ces souvenirs? Servent-ils à marquer notre identité, à donner du sens à notre vie, à baliser l'avenir? Nous verrons ce matin comment fonctionne la fabrique à souvenirs, comment expliquer les souvenirs involontaires, d'où viennent les faux souvenirs, pourquoi les souvenirs ne sont pas aussi fidèles qu'on ne le croit. Éléments de réponse ce matin avec nos invités et avec la complicité du mensuel Ça m'intéresse. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef de service à Femme Actuelle. On retrouve bien évidemment vos pertinentes questions tout au long de l'émission.
Je vais vous parler du bac, vous vous souvenez le bac?
Ah ben oui, je m'en souviens très bien. Voilà. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psy maison, quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien, je l'annoncerai par une devinette. Qui a dit « Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement ?» Réponse tout à l'heure.
Quel sens du suspense, Christophe André. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je me souviens des Scooby-Doo. Je me souviens de Dop Dop Dop, adopter le shampoing Dop. Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre quand il préparait ses examens. Je me souviens de l'époque où il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année d'attente pour avoir une nouvelle voiture. Je me souviens des rubriques Vrai ou Faux, Le saviez-vous, Incroyable mais vrai dans les journaux d'enfants. Je me souviens des attractions qu'il y avait au Gaumont Palace. Je me souviens aussi du Gaumont Palace. Je me souviens de la mode des Duffelcoat. Je me souviens de Ploum Ploum Tralala. Je me souviens qu'au Monopoly, l'avenue de Breteuil est verte, l'avenue Henri-Martin rouge et l'avenue Mozart orange. Je me souviens que le lendemain de la mort de Gide, Mauriac reçut ce télégramme. Enfer n'existe pas, peut te dissiper, stop, Gide.
Je me souviens, lu par la belle voix de l'auteur Georges Perec, ça fait du bien d'entendre ça, hein, Christophe André. Hein.
Oui, il a une voix très jeune, très fraîche, oui, c'est la première fois que j'entends.
Bonjour Carole Pénaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef de service environnement et psychologie à Ça m'intéresse et vous proposez ce mois-ci un dossier intitulé « Peut-on faire confiance à ses souvenirs ?» Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, praticienne à l'hôpital Rothschild. À Paris, on peut lire tous les mois votre chronique dans le quotidien Le Monde. Bonjour Francis Eustache.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue, directeur du laboratoire INSERM, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. Et vous avez lancé avec l'historien Denis Péchanski le programme de recherche consacré à l'évolution de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Et vous avez publié au pommier les nouveaux chemins de la mémoire. Alors le Robert explique qu'un souvenir, c'est ce qui revient ou peut revenir à l'esprit des expériences passées, image que garde et fournit la mémoire. D'un point de vue scientifique, Sylvie Chocron, qu'est-ce qu'un souvenir et qu'est-ce qui différencie la mémoire et le souvenir?
Alors, on a longtemps pensé qu'un souvenir était stocké dans une cellule, dans un neurone, et qu'on avait comme ça le neurone de notre grand-mère, qui contenait tous les souvenirs liés à notre grand-mère. Et depuis un certain temps, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Un souvenir, c'est plutôt un chemin. C'est pour ça que le titre du livre de Francis Eustache est très évocateur, Les chemins de la mémoire. Parce qu'un souvenir, c'est un chemin, ce sont des connexions entre différents neurones qui vont donc tracer vraiment... ancrer ce souvenir. Et donc il y a une différence entre la mémoire, ou plutôt devrait-on dire les mémoires, mais on va sans doute en parler, et chacun de nos souvenirs qui pourrait s'apparenter à une route qui est d'autant mieux tracée, d'autant plus stable, lisse, large comme une autoroute, qu'on va chercher souvent ce souvenir. Mais je pense qu'on va en reparler.
Francis Eustache.
Eh oui, effectivement, comme vient de le dire Sylvie Chocron, il y a la mémoire, les mémoires, il y a différents types de mémoire. Donc la mémoire, c'est un concept relativement large, donc qui comprend des savoir-faire, des connaissances sur le monde, des connaissances générales sur soi. Et puis il y a les souvenirs qui sont particuliers, qui sont singuliers, qui renvoient à un moment précis de notre vie, situé dans le temps, donc situé dans l'espace. C'est quelque chose qui s'est produit une fois et qui a une acuité particulière, une sensibilité particulière. Et ce sont souvent des moments de changement ou des moments emblématiques d'une période de notre vie et qui vont teinter en quelque sorte, sont un petit peu les cerises sur le gâteau de notre mémoire, parce qu'ils nous permettent de bien nous situer dans la narration de notre vie.
Alors que se passe-t-il quand mon cerveau conserve le souvenir du match de foot France-Espagne à l'été 1982 ? Je me souviens précisément de la salle de télévision, de la colonie de vacances, la Muntanya en Vetch, dans les Pyrénées-Orientales. Je me souviens que ce soir-là, j'étais habillé en robe de chambre, c'était il y a 40 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi est-ce que je conserve ce souvenir de façon aussi vive, Sylvie Chocron ?
Alors, très probablement parce que d'abord, vous aviez plein de stimulations en même temps, au même moment. Donc, vous aviez évidemment la vision, vous étiez en train de regarder la télé, mais il y avait ce que vous étiez en train de dire à vos amis autour de vous. Il y avait même l'odeur peut-être de la pièce, la lumière de la pièce. Et donc, plus vous allez encoder des informations avec comme ça une richesse sur le plan sensoriel, plus probablement le souvenir va être ancré parce qu'il va faire appel à différentes régions dans votre cerveau. Et puis évidemment, il y avait les émotions, les gens avec qui vous étiez, l'émotion que vous avez ressentie pendant que vous regardiez ça. Et on sait que le circuit des émotions et le circuit de la mémoire partagent des régions cérébrales en commun. Et plus un souvenir va donc recruter vos émotions, plus il va être ancré dans votre mémoire et plus vous allez vous en souvenir.
Francis Eustache, pourquoi n'ai-je pas oublié ce jour de juillet 1982 alors que je ne me souviens pas du tout de ce que je faisais mardi dernier ?
Alors, il y a tout d'abord vos intérêts, hein, pour le foot en l'occurrence.
À l'époque.
Je ne sais pas pour aujourd'hui. Et puis, il y a une certaine période de votre vie, teintée, vous voyez, les colonies de vacances, c'est une période qu'on appelle dans notre jargon le pic de réminiscence. C'est-à-dire, vous étiez jeune et c'est le moment où on fabrique beaucoup de nouveaux souvenirs parce que, il y a beaucoup de nouvelles expériences, donc les colonies de vacances. On peut penser qu'il y a beaucoup de nouvelles expériences. Donc il y a ça. Et puis, je vais un petit peu moduler parce que c'est une impression que vous avez de vous souvenir. Alors, je ne suis pas en train de casser la baraque et de dire que vous n'avez pas de souvenir de cette colonie de vacances. Mais par contre, la façon, la précision avec laquelle vous décrivez les choses, si on avait une photo ou un enregistrement magnétoscopique, je pense que les choses seraient un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que ce souvenir, qui est un souvenir agréable, vous l'avez amélioré, vous l'avez embelli au fil du temps parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des souvenirs heureux parce que ces souvenirs du passé, c'est aussi ce qui va nous permettre de voir l'avenir de façon positive, de façon optimiste. Donc c'est aussi le travail de la mémoire d'améliorer les choses quand on va bien, on améliore plutôt nos souvenirs.
Caroline Penaud.
Oui, c'est intéressant ce que dit Francis Eustache, parce qu'effectivement, il y a un décalage entre ce qui s'est passé et le souvenir que vous en avez. Et à chaque fois, en fait, que vous avez réactivé ce souvenir, il y a des nouveaux détails qui sont rajoutés, peut-être la passion du foot continuant, etc. Et c'est aussi sans doute, je sais pas à quel âge vous aviez à l'époque, mais les premiers souvenirs d'enfance, parce que les premiers vrais souvenirs, je pense que les experts confirmeront, c'est vers 6-7 ans. Avant, il y a l'amnésie infantile, on ne se souvient pas de nos souvenirs d'enfance.
J'avais déjà 9 ans à l'époque.
9 ans.
Sylvie Chocron.
Moi, je pense que, comme le disait Francis auparavant, à chaque fois qu'on sait maintenant qu'à chaque fois qu'on va évoquer un souvenir, c'est comme si on le stockait à nouveau. Et donc on le consolide à nouveau, on repasse par tous les processus, comme le jour où on a pour la première fois encodé ces informations et stocké ces informations. Et donc à chaque fois que vous y repensez, vous refabriquez ce souvenir avec peut-être d'autres émotions, parce que vous y avez pensé entre-temps, et voilà, d'autres sentiments, d'autres sensations. Et donc, du coup, le souvenir se reconstruit et s'enrichit au fur et à mesure du temps. Parce que vous l'évoquez.
Trois étapes fondamentales donc pour qu'un souvenir se grave dans notre mémoire. L'encodage, la consolidation et la mémorisation.
Exactement. Donc l'encodage, le stockage qui va permettre vraiment de garder les souvenirs et la récupération qui s'active au moment où on rappelle un souvenir.
Mais une fois gravés, les souvenirs peuvent-ils disparaître ?
Alors, il y a toute une discussion, parce que quand on oublie quelque chose, on pense toujours que le souvenir a disparu. Oui. Mais quelquefois, il est simplement inaccessible, parce qu'il y a une interférence entre ce souvenir-là et d'autres souvenirs qui sont proches et qui viennent gêner le chemin pour aller chercher ce souvenir précis. Mais malheureusement, dans certains cas, et souvent plutôt en pathologie, dans les pathologies de la mémoire, et Francis en parlera peut-être, le souvenir peut se dégrader, la trace véritablement peut se dégrader. Et là, effectivement, on perd le souvenir.
Francis Eustache.
Oui, alors l'oubli, c'est un terme qui a plutôt mauvaise presse, quoi, qui sonne mal. Donc, et c'est vrai qu'on renvoie l'oubli au processus pathologique, et bien sûr que ça existe. Hein. Il y a des patients amnésiques ou des patients qui ont une maladie dégénérative qui vont mal former leurs souvenirs, et puis aussi les souvenirs qui vont disparaître. Mais chez quelqu'un qui est en bonne santé, en fait, le statut de l'oubli est beaucoup plus positif. L'oubli, il faut plus le considérer comme une fabrication du tri. C'est un peu le partenaire de la mémoire. C'est ce qui nous permet de ne pas tout conserver, parce que ce serait terrible. On peut pas conserver tous les moments de notre vie au quotidien. C'est absolument impossible. Donc l'oubli, c'est souvent... Alors c'est soit oublier les choses qui sont sans intérêt, alors vraiment les oublier définitivement, mais quand ce sont des éléments de notre vie qui ont potentiellement de l'intérêt, c'est là la subtilité de la mémoire, c'est que cet oubli va être plus une mise à l'arrière-plan, parce que c'est pas important au moment précis, dans la conversation précise, selon mes aspirations du moment, vous voyez, c'est mis à l'arrière-plan, mais si un événement nouveau survient, par exemple rencontrer une personne qu'on n'a pas vue depuis quelques années, ou se trouver à nouveau dans un lieu que l'on n'a pas fréquenté depuis plusieurs années, à ce moment-là, ces informations vont réapparaître à nouveau à la conscience. C'est ça la grande différence, je pense, entre la mémoire humaine, enfin la mémoire biologique au sens large, et la mémoire artificielle qui va conserver, mais sans vraiment hiérarchiser les informations.
Marie-Laure Zunshine de Femmes Actuelles.
Oui, j'avais une question concernant les émotions, parce que bien évidemment, on se dit, peut-être à tort, vous allez nous le dire, que les émotions vont avec le souvenir. Alors, je reprends Ali, petit garçon, tout excité depuis le matin, certainement, qui s'est préparé, qui s'est habillé, qui a choisi sa place dans la salle pour bien être face à l'écran. Il a préparé, il y a une montée comme ça de ses émotions dans la journée. Mais qu'en est-il lorsque, malheureusement, survient un drame? Je pense à des drames collectifs, 11 septembre 2001, novembre 2015, Francis Eustache a travaillé sur le sujet. On n'est pas préparé à ces émotions-là et elles surgissent absolument en même temps et restent dans notre mémoire tout autant que le match de football de juillet 82.
Alors oui, je pense que Francis va en parler puisqu'il a vraiment mené une recherche sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait maintenant que quand il y a une décharge d'adrénaline, comme ça, donc un stress violent, cette décharge d'adrénaline va contribuer à la consolidation du souvenir. Et donc du coup, elle renforce encore son ancrage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à se débarrasser ensuite d'images, même traumatisantes, qu'on voudrait oublier, mais qui restent fixées, associées à cet événement. Mais je pense que Francis
Eustache...
Oui, je peux commenter ça en prenant d'ailleurs les exemples qui ont été pris là, le 11 septembre dont on a parlé récemment, et puis le 13 novembre, bien sûr, on en parle fréquemment du fait du procès. Alors là, schématiquement, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui est devant sa télé. Pour le 11 septembre, c'était le cas de la majorité des Français. On voyait les images des tours qu'on a revues récemment, les avions qui rentrent dans les tours. Et là, la fabrication du souvenir, c'est la fabrication de ce qu'on appelle un souvenir flash. Mmh. Un souvenir flash, c'est-à-dire que plusieurs années après, on a l'impression de revivre le moment où on a enregistré ces informations. On se voit dans la scène, on était dans sa cuisine en train de faire quelque chose de totalement dérisoire. Et le fait d'avoir l'impression de se souvenir du contexte, ça donne beaucoup de force au contenu du souvenir. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, ben oui, ça c'était le 11 septembre, il s'est passé telle chose, et puis on va décliner toutes sortes d'informations qui vont accompagner ce souvenir. Et en fait, ces informations, on sait maintenant, ça a été vraiment très bien étudié, que ces informations sont fausses. Puisque au moment du 11 septembre, on ne savait rien. On savait simplement que les avions avaient foncé dans les tours, mais on n'avait aucune explication sur l'origine, etc. Donc ça montre bien que ce souvenir flash, c'est presque un abus de confiance, vous voyez, de la mémoire. C'est-à-dire que c'est le fait de se souvenir du contexte, ou en tout cas d'avoir l'impression de se souvenir du contexte, fait que on est sûr de notre souvenir. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, comme on en a beaucoup reparlé ces derniers jours, quand vous dites, quand on explique ça à quelqu'un, bah souvent la personne, je ne vais pas dire qu'elle se met en colère, mais elle a une certaine résistance à cette explication-là, qui est pourtant une explication qui a été vraiment démontrée de long en large, parce que c'est clair que le 11 septembre, on ne savait pas du tout l'origine de ces attentats. Alors ça, c'est le premier cas de figure. Et puis l'autre cas de figure, c'est la personne qui est prise dans la situation traumatique. C'est-à-dire que c'était la personne qui était auprès des tours ou la personne qui se trouvait le 13 novembre, soit dans la fosse du Bataclan, soit sur les terrasses, soit aux abords du Stade de France. Et là, c'est plus un dysfonctionnement de la mémoire parce que les décharges de neuromédiateurs sont trop importantes. Et le lien entre l'émotion et la mémoire est un lien, cette fois-ci, qui est négatif. C'est-à-dire que l'émotion trop forte va perturber le fonctionnement de la mémoire. Donc, contrairement au souvenir flash dont je viens de parler, il n'y a pas le contexte. Là, il n'y a pas du tout le contexte, mais ce sont uniquement des images disparates qui sont mémorisées. Donc des images, ça peut être des images visuelles, bien sûr, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons. Et ce qui va être fabriqué là, ce n'est pas un souvenir de la situation dans son ensemble, mais c'est ce qui va devenir des intrusions. Alors les intrusions sont ces images disparates qui vont parvenir à la conscience du blessé psychique, de la personne qui était présente sur les lieux, et qui vont être vécues à nouveau au présent. Et ça c'est vraiment la
grande. Et on y reviendra tout à l'heure, Francis Eustache. Quel est le rôle précis des hippocampes dans la formation des souvenirs, Sylvie Chocron? Je rappelle que l'hippocampe, c'est une petite structure cérébrale. Que se passerait-il, par exemple, en cas d'ablation de l'hippocampe?
L'hippocampe, c'est vraiment l'organe de la formation des souvenirs. Donc, l'hippocampe, c'est l'organe qui permet d'apprendre. Donc on dit que on a différents stades dans la mémoire, on peut se souvenir, on peut apprendre de nouvelles choses, c'est vraiment la tâche de l'hippocampe. Et donc les patients qui ont une atteinte de l'hippocampe peuvent avoir vraiment un trouble qu'on appelle de la mémoire antérograde, c'est-à-dire de la capacité à apprendre de nouvelles choses.
Quel est le rôle du sommeil dans la fixation des souvenirs ?
Le sommeil est extrêmement important et de manière générale, on l'étend maintenant même aux pauses. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pendant les pauses, dans la journée, ou pendant le sommeil la nuit, qu'on va vraiment consolider toutes les informations qu'on a encodées dans la journée. Et c'est ainsi que les souvenirs vont se trouver ancrés dans notre mémoire. Donc, il est évident qu'un manque de sommeil peut générer des petites difficultés à apprendre ou à se souvenir, simplement par défaut justement de consolidation.
Alors, où sont nos souvenirs, Sylvie Chocron? C'était la question métaphorique que posait le philosophe Henri Bergson. Existe-t-il tout de même une zone cérébrale qui stocke nos souvenirs?
Alors, c'est très intéressant parce que, effectivement, donc il y a cette région de l'hippocampe qui est très impliquée dans la mémorisation. Mais on pourrait dire que finalement, nos souvenirs, ils sont un petit peu partout dans le cerveau parce qu'on a aussi une mémoire visuelle, on a aussi une mémoire olfactive, on a aussi une mémoire tactile et ainsi de suite. Donc, nos cortex visuels, auditif, il stocke aussi des images mentales qui correspondent à des événements perçus dans chaque modalité sensorielle.
Caroline Pénaud de Ça m'intéresse.
Oui, enfin juste pour compléter, c'est vrai qu'on a longtemps cru que les souvenirs étaient comme des livres rangés dans une bibliothèque, et c'est vrai qu'aujourd'hui on sait que c'est plus dans des paquets de neurones, des engrammes, je pense que vous confirmerez.
Vraiment des connexions.
Voilà, des connexions, et que aussi, pour reprendre une image aussi, que c'est pas comme un disque dur d'ordinateur où le souvenir il est ancré, il est figé, c'est plutôt une page Wikipédia qui va être changée, qui va évoluer au fil du temps.
Belle image. Dans quelques instants, nous verrons pourquoi nos souvenirs sont si essentiels et pourquoi ils permettent de donner du sens à notre vie. En attendant, on écoute Camille, ta douleur.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mmh. chatté son sifflet, j'ai eu donné la fessée. Je prends ta douleur, la vie de la récré.
Interpréter ta douleur.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Comment fonctionnent nos souvenirs? C'est notre thème ce matin avec la complicité du mensuel Ça m'intéresse. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et un immense pan sur le bec car Didier de Saint-Cyr nous écrit: Ali, il n'y a pas eu de France-Espagne à l'été 82, peut-être France-Allemagne qui s'est jouée à Séville. En Espagne. Sylvie Chocron, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse une confusion pareille, alors que je savais bien sûr que c'est France-Allemagne, avec le fameux coup de boule de Schumacher sur le gardien de but Batiston.
Moi, je pense, Ali, que vous êtes trop consciencieux, et que du coup, vous avez voulu nous montrer à quel point rappeler un souvenir, c'est le reconstruire. Ouais. Et du coup, vous l'avez reconstruit, en étant victime d'une forme d'interférence, parce que ça s'était passé en Espagne, et que du coup, c'est devenu France-Espagne, et que vous avez peut-être vu récemment un France-Espagne.
C'est ça, voilà. On voit l'interférence du présent avec les souvenirs. Comme exactement. Il y avait France-Espagne avant-hier à la télé, tu as dû en entendre parler.
Et donc, voilà. Merci Ali, c'est comme des travaux pratiques pour expliquer que ce souvenir, c'est reconstruire.
Et merci à Didier de Saint-Cyr. Allez, on écoute l'immense dessinateur sans paix.
Vous savez, dès qu'on pense à son enfance, il y a aussitôt des moments agréables qui reviennent. C'est ce que je trouve bien. La plupart du temps, je crois, on pense à des moments agréables qu'on a connus quand nous étions enfants, parce que justement, nous étions enfants. Alors c'est l'enfance qui est agréable, peut-être pas les circonstances, mais quand même, chacun a un petit sourire.
Sampé qui publie en ce moment ses carnets de bord aux éditions Cahiers Dessinés avec une préface de Patrick Modiano. Alors à mesure que je vieillis, j'ai l'impression que mes souvenirs d'enfance deviennent de plus en plus précis. Comment expliquez-vous cela, Sylvie Chocron?
Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a dit avant. À chaque fois qu'on va rechercher un souvenir, c'est comme si on le réencodait, on le restockait à nouveau. Et donc finalement, il s'ancre encore plus, d'autant que très probablement, en y repensant, vous y rajoutez des affects, une nostalgie, une envie peut-être de se retrouver à ce moment-là.
Des erreurs.
Et peut-être que du coup, en vieillissant, ce souvenir devient de plus en plus présent et de plus en plus fort.
Et concernant les souvenirs de la prime enfance, quelle est la part de souvenirs liés à ce que nos parents, notre famille nous a raconté?
Mais oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a des souvenirs qu'on a vécus et dont on se souvient parce qu'on a des images. Alors, même ceux-là, on les a sans doute un petit peu reconstruits. Et puis, il y a ceux qu'on a appris. Et donc, du coup, tout ce qu'on vous a raconté sur comment s'est passée votre naissance, vos premières années, etc., ce sont sans doute vraiment des connaissances acquises, mais qui se rapportent à vous, à votre vécu. Et du coup, ça a un statut entre le souvenir et l'apprentissage, en fait. Mais c'est pas vraiment quelque chose que vous avez vécu.
Francis Eustache, pourquoi certains malades d'Alzheimer oublient le nom, le visage de leurs proches et peuvent se souvenir de leur jeunesse volontairement ou si on leur fait écouter une musique qui peut leur rappeler leur époque? Comment on explique cela, Francis Eustache?
Oui, alors généralement chez ces patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on observe un meilleur rappel des souvenirs très anciens. Peut-être parce que ces souvenirs ont été encodés de façon plus forte et puis ils ont été réencodés à de multiples reprises, comme Sylvie Chocron vient de le dire. Hein, donc il y a un encodage, une consolidation, une reconsolidation. Donc ça devient en fait des connaissances très générales et donc beaucoup plus robustes que des souvenirs plus récents. Il y a aussi le fait que les souvenirs plus récents sont aussi mal encodés parce que la personne est devenue malade. Donc elle a ce qu'on appelle une amnésie entérograde. Donc tout ça se conjugue pour faire en sorte que les souvenirs du passé sont mieux mémorisés. Et la musique renvoie à un autre concept, hein, c'est la notion d'émotion. La musique, c'est émotionnel, donc ça va être mieux conservé. Et puis même certains patients vont être capables de réapprendre des chansons nouvelles. Ça a été montré dans mon laboratoire. Et c'est très important aussi pour le lien social, parce que la mémoire, c'est pas seulement la mémoire de chacun, mais c'est la mémoire qui va se conjuguer avec la mémoire des autres. Et donc apprendre des chansons, c'est important pour notre socle social commun.
Tiens, à propos de musique, je vous propose d'écouter une note vocale laissée par Goulwen.
Pour moi, mes souvenirs se font, ou en tout cas, je m'en rappelle grâce aux musiques. Il y a des grands événements de ma vie ou des moments importants qui sont en lien avec des musiques. Les vacances en famille avec mes parents, la naissance de mes enfants, mon premier séjour hors de France, en Angleterre, quand j'étais au collège. Voilà. Mais beaucoup de mes souvenirs sont liés à une musique. Et dès que je les entends, qui est passée sur les ondes, eh bien, j'ai une certaine nostalgie de ces bons moments agréables que j'ai pu passer.
Sylvie Chocron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue.
Oui, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais à chaque fois qu'on forme un nouveau souvenir, qu'on encode une information, on encode tout le contexte qui va avec. Et ensuite, ce contexte, que ce soit la musique, que ce soit les odeurs, on va peut-être en parler, que ce soit la vision, tout ce contexte va agir comme un renforçateur et comme un facilitateur au moment de la récupération. Donc il suffira de voir la couleur de la pièce, la peinture, ou d'entendre la musique ou de sentir une odeur pour que hop, le souvenir remonte à la mémoire parce qu'il est associé de manière indéfectible au contexte.
Francis Eustache, je rappelle que vous êtes également neuropsychologue.
Oui, donc l'olfaction et la gustation ont un rôle un peu particulier. Bon, c'est la fameuse Madeleine de Proust, il faut quand même en dire un mot.
Mais tiens, à ce propos, Francis Eustache, écoutez.
J'irais bien faire un tour
Francis Eustache, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur la fameuse Madeleine de Proust, l'odorat et le goût intimement liés à notre mémoire sentimentale, la fameuse Madeleine trempée dans une tasse de verveine. Dans ce cas, un élément extérieur fait surgir involontairement un souvenir enfoui. Proust parle de l'édifice immense du souvenir, des sensations et des sentiments que l'on pensait à jamais oublier ressurgissent de façon inopiné, c'est assez merveilleux quand ça arrive. Alors comment, Francis Eustache, la neuropsychologie explique cela?
Alors la neuropsychologie, et puis peut-être plus simplement encore, la neuroanatomie, à savoir que les régions du cerveau qui sont responsables de ces sens, hein, l'olfaction, la gustation, sont en lien direct avec les principales structures impliquées dans la mémoire, et notamment les hippocampes dont on a déjà parlé. Et donc il y a un lien direct. Et ça ne renvoie pas forcément tout de suite à un souvenir, à un vrai souvenir, mais ça renvoie à une émotion particulière. Et ce qui est décrit dans les quatre pages de la Pléiade, hein, de la fameuse Madeleine de Proust, c'est cette recherche du souvenir à partir d'une émotion particulière. C'est-à-dire que le fait de boire cette tasse de verveine avec la texture bien particulière des petits morceaux de madeleine renvoie le narrateur à une sensation particulière, à une émotion particulière, et il lui faut une recherche très pointue, très volontariste, pour parvenir au souvenir au bout de ces quatre pages.
Sylvie Chocron.
Oui, et je crois que la particularité aussi de l'olfaction et de la gustation, c'est que ça se passe complètement à notre insu. Mmh. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il y a des articles qui ont montré qu'il y a une association, vraiment, entre l'odeur et un objet ou une scène qu'on est en train de mémoriser. Et c'est sans doute ce caractère automatique qui rend l'association encore plus solide au cours du temps. Contrairement à ce qui est volontaire.
Des sens, comme la vue, le toucher, l'ouïe, peuvent également faire surgir des souvenirs involontaires, toujours dans la recherche du temps perdu. Je pense aux pavés inégaux dans la cour de l'hôtel de Guermantes, à l'odeur dans les lavabos publics des Champs-Élysées, ou encore à la vision des clochers de Martinville. Tous les sens sont mis en action pour faire surgir cette mémoire involontaire.
Oui, exactement. C'est ce qu'on disait avant. Dans la mesure où on mémorise tout le contexte, et tout ça, qu'on le veuille ou non, ensuite, le contexte va suffire à évoquer le souvenir. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi, c'est une technique d'apprentissage. On peut conseiller des fois à des étudiants d'apprendre en écoutant une musique particulière ou en regardant les indices visuels autour d'eux ou avec des odeurs, et ensuite évoquer simplement la sensation évoquera la connaissance, le souvenir.
Question de Caroline Pénaud de Ça m'intéresse.
Oui, moi je me demandais pourquoi parfois on va se souvenir d'une publicité d'il y a 30 ans pour Dop 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 comme disait tout à l'heure Georges Perec, et pourquoi on va oublier la voix de sa grand-mère que pourtant on affectionnait beaucoup. Alors, c'est toujours un peu intriguant de se souvenir de choses banales et d'oublier des choses importantes parfois.
C'est vrai. Alors, dans le cas de la publicité, c'est très simple. En fait, le travail des publicitaires, c'est en quelque sorte de vous conditionner. Et donc, dans ce cas-là, l'apprentissage, c'est comme dop, c'est comme un conditionnement. Mais c'est aussi la même chose que les tout petits enfants qu'on emmène faire de la kiné respiratoire. Même quand ils sont tout petits, rien que la vue de la façade de l'immeuble suffit à faire qu'ils se mettent à pleurer, parce qu'il y a comme un effet de conditionnement. Et ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Francis expliquait tout à l'heure, c'est que quand on va vivre des choses au cours de la journée, par exemple, imaginons ce matin, j'ai pris le métro pour venir ici, il y avait des gens sur le quai avec moi, je suis pas vouée à me souvenir des visages des gens qui étaient sur le quai. Maintenant, imaginons que ce soir, à 20h, j'entends aux infos qu'il y a eu un attentat qui s'est produit à la station où j'étais, à l'heure où j'étais, a posteriori, toutes ces perceptions qui sont encore dans ma mémoire à court terme, à moyen terme, elles vont peut-être passer dans ma mémoire à long terme, parce que je vais essayer de me souvenir de tous les détails de cette scène. Donc ce qui fait qu'on se souvient des choses aussi, c'est l'utilité qu'on va en faire. Donc au sens large, la motivation en fait.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, Sylvie Chocron, vous disiez tout à l'heure, les souvenirs se logent un peu partout dans le cerveau. Alors j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils se logent un peu partout dans mon smartphone, hélas. On prend des photos de tout, de rien. Pourquoi ? Pour se créer des souvenirs, pour ne pas oublier certaines choses. On va prendre un pigeon qui s'éclate sur une vitre parce qu'on trouve que l'instant est marrant.
Super.
Oui, non, si, moi ça va m'intéresser. Voilà, un bel endroit, un coucher de soleil, mais aussi les retrouvailles d'un copain dans la rue par hasard. On met tout sur notre téléphone. Pourquoi ?
C'est très intéressant. Est-ce que ça altère la formation du souvenir ?
Vous avez raison. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue. On a comme une mémoire externe qui est dans notre téléphone. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas souvent regarder ce que j'ai pris en photo. Donc, c'est comme si on avait ce réflexe maintenant d'ajouter à notre propre perception et à notre propre mémoire la perception et la mémoire du téléphone. Le risque, c'est qu'à force de déléguer les informations à une mémoire externe et de se dire que le téléphone a une mémoire plus efficace que la nôtre, parce qu'au moment où j'ai besoin de retrouver un code, une adresse, le nom d'un président, d'une capitale ou quoi que ce soit, je vais aller vérifier dans mon téléphone, on risque de perdre nos propres connaissances en n'allant pas les chercher. Parce que ce qu'on a dit avant, c'est effectivement que si on va pas chercher une trace en mémoire, le chemin pour y aller, le chemin de la mémoire, ça va être un champ de maïs à défricher, vous voyez ? Donc on ferait bien d'être très prudent dans l'utilisation de nos téléphones.
Bon, j'aurais quand même dû vérifier France-Allemagne sur mon smartphone. Hein. il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Hein. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Docteur Christophe André.
Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Eh oui, Comme le remarquait perfidement La Rochefoucauld, nous sommes le plus souvent toutes et tous persuadés que notre intelligence et notre clairvoyance fonctionnent parfaitement, mais pas notre mémoire. Bon, on parlera aujourd'hui de la mémoire. La fonction de la mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi se construire et se définir. Se souvenir pour se construire ? Absolument. Car le vivant, c'est une mémoire qui agit, disait le chercheur Henri Laborite. Le vivant, c'est ce qui, pour changer, évoluer, s'adapter sans cesse, a besoin d'agir. Mais besoin aussi de se souvenir pour que nos expériences passées, échecs et succès, éclairent nos actions à venir. Tout apprentissage est basé sur la mémoire et tout développement personnel aussi. Sans le souvenir de notre passé, nous ne pouvons ni enrichir le présent, ni écrire notre avenir. Se souvenir pour se construire, donc, mais aussi se souvenir pour se définir. Car la mémoire est au cœur de notre identité, sous la forme de ce qu'on nomme mémoire autobiographique, qui compile tous les souvenirs des moments de notre vie, grands et petits, vrais ou faux, et les organise en un récit cohérent. Le philosophe Paul Ricoeur parlait ainsi d'identité narrative. Cette histoire de notre vie que nous écrivons nous-mêmes, ce « qui je suis » raconté par moi-même. Pour ma part, je me suis rendu compte que je prenais de l'âge le jour où j'ai compris qu'à force de temps, je n'avais plus seulement des souvenirs, mais aussi un passé, que tout ce que j'avais vécu commençait à s'organiser en une longue histoire personnelle, plus ou moins cohérente.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus.
Quelques années avant sa mort, ma mère a développé une maladie d'Alzheimer. Quand je me suis aperçu que son cerveau commençait à s'effilocher, j'ai voulu préserver ce qui lui restait encore de souvenirs. J'avais l'espoir que ça l'aiderait un peu et le souhait de ne pas laisser définitivement s'effacer des pans entiers de son histoire. Je me souviens de ces matinées durant lesquelles, assis ensemble à la table de sa cuisine, mon ordinateur posé sur la toile cirée à fleurs, je lui demandais de me parler de son enfance et de son passé, lui faisant raconter tout un tas d'épisodes de sa vie que j'ignorais complètement. Des choses plutôt tristes, dures, beaucoup de misère dans son enfance, de moments difficiles, sans aucune exhumation, hélas, de souvenirs joyeux. Puis, après quelques séances, nous avons commencé à tourner en rond. Comme si nous avions épuisé son stock de souvenirs accessibles. Elle me répétait les mêmes histoires. Sans doute avais-je entrepris ce chantier quelques années trop tard. J'aurais dû m'y lancer bien avant, au moment où je m'étais aperçu qu'elle avait de petits troubles du comportement et du raisonnement. Finalement, tous les détails qu'elle arrivait à me donner de sa propre vie tenaient sur 10 pages. C'est à moi désormais d'écrire la suite avec mes propres souvenirs sur elle. Sûr que ça aurait été mieux de le faire ensemble. Mais la vie est comme ça. En tout cas, si vos parents sont encore là, ne faites pas comme moi. Recueillez leurs souvenirs et écrivez-les avec eux tant qu'ils sont en vie et en forme.
La chronique chose vue de Christophe André. Caroline Pénaud, pour aller dans le sens de la chronique de Christophe, vous rappelez que les souvenirs donnent l'impression qu'il existe un fil rouge au cours de notre vie, les souvenirs qui définissent notre identité.
Oui, parce que déjà personne n'a les mêmes souvenirs que nous, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et c'est vrai que ça permet de faire le lien entre le passé et le futur, de savoir les réussites qu'on a eues dans le passé, ça nous permet de nous projeter dans le futur. Donc il y a vraiment, il y a eu pas mal d'études sur la nostalgie, quand on se plonge dans ses souvenirs avec nostalgie, souvent ça favorise ce sentiment d'autocontinuité en fait, entre de lien dans l'existence.
Sylvie Choucron.
Oui, et puis je crois que on l'a dit, mais il faut pas oublier que la mémoire, ça sert aussi à projeter des choses qu'on va faire dans l'avenir. Il y a cette mémoire qu'on appelle la mémoire prospective, et donc la mémoire, ça nous sert à nous souvenir de ce qui est passé, mais ça nous sert aussi à nous souvenir de ce qu'on a prévu de faire. Donc finalement, c'est un lien vraiment indéfectible entre le passé, le présent et le futur.
Francis Eustache, sur le souvenir qui permet de donner du sens à nos vies.
Oui, ça permet de donner du sens à notre vie, à ma vie, mais ça permet aussi de communiquer avec les autres. Ça, c'est très important. Maurice Halbax disait « je ne suis jamais seul ». C'est-à-dire que quand on forme un souvenir, on le forme dans un certain contexte. Ça, ça a déjà été dit. Mais quand on l'évoque aussi dans un certain contexte où l'autre est présent. Et cette dimension collective de la mémoire est aussi très importante. Ce que j'appelle mes souvenirs, ce sont aussi des souvenirs qui sont construits avec les autres. Et c'est ce qui va permettre ce lien social, in fine, qui est aussi une dimension très importante de la mémoire.
Et vous pouvez réécouter, partager en podcast la chronique de Christophe André sur l'appli France Inter. Dans un instant, nous verrons s'il est possible d'effacer les souvenirs douloureux. En attendant, on écoute Benny Sings. Interprété Run Right Back.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h49, comment fonctionnent nos souvenirs et beaucoup de messages sur notre page Facebook. Laurent qui nous dit « Je vois chez ma sœur des disques vinyles que je lui ai donnés jeune. Elle, ma sœur, m'assure qu'ils lui appartenaient. Lorsque deux amis évoquent un souvenir commun et qu'il s'avère différent, qui a raison ?» Sylvie Chocron.
Alors là, on va pas pouvoir trancher. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on prend bien conscience du lien entre la mémoire et la motivation. C'est vraiment, on a parlé des émotions, mais c'est pareil pour la motivation. Et le sens qu'on donne aux choses. Et effectivement, chacun a peut-être reconstruit un souvenir en fonction de sa motivation pour avoir ses disques.
Caroline Pénaud de Ça m'intéresse.
Mais c'est vrai que ce décalage entre deux versions d'une histoire, on est souvent très très sincère. La façon dont on se souvient d'un événement, ça peut poser un problème dans les affaires de justice, les témoignages, etc. Mais comment on peut expliquer qu'il y a un tel décalage entre les souvenirs d'une personne personne et d'une autre qui ont vécu le même événement.
Alors, je pense que c'est parce qu'on oublie aussi que quand on mémorise quelque chose, d'abord il y a une étape de perception. Et on n'est pas toujours conscient du fait qu'on perçoit chacun le monde différemment. Parce qu'on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Finalement, on perçoit chacun avec notre propre cerveau et la perception est déjà une construction. Donc avant même que la mémoire soit une construction, on a déjà une première construction. C'est ce qui explique que les portraits robots, par exemple, quand on recherche quelqu'un, sont tous différents parce qu'on a perçu différemment, on l'exprime différemment et finalement on va mémoriser différemment. Donc dans la mesure où on comprend qu'on a chacun un cerveau différent, on comprend qu'on perçoit et on construit nos souvenirs de manière tout à fait individuelle.
Beaucoup de questions sur les souvenirs de la prime enfance. Ségolène qui nous dit « Vous parlez des premiers souvenirs vers 6-7 ans. Pour ma part, mes souvenirs sont bien avant cet âge. Mes souvenirs remontent à l'école maternelle avant 4 ans. Y a-t-il une explication ?» Et Pilar nous écrit « Mes parents ont émigré en France à pied de nuit par la montagne. J'avais 2 ans. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai le souvenir de la maison où nous sommes arrivés. Souvenir réel ou souvenir fabriqué à partir des récits entendus. » Beaucoup de questions dans ce sens-là.
Je pense qu'elles ont tout à fait raison. On est capable de construire des souvenirs beaucoup plus tôt. D'ailleurs, on sait que le bébé in utero est capable déjà de mémoriser, par exemple, des musiques ou le son de la voix de sa mère. Donc, le bébé très jeune est également capable de se souvenir. Toute la question, c'est est-ce qu'on est capable d'évoquer ces souvenirs qu'on a acquis très tôt. Donc, on parle de l'amnésie infantile, qui n'est pas véritablement une amnésie, parce qu'on a mémorisé, c'est juste qu'on n'arrive pas à se rappeler. On a invoqué d'abord une immaturité de l'hippocampe qui expliquerait l'amnésie infantile des premières années de vie. Actuellement, il y a une autre hypothèse intéressante qui prédit qu'on n'arrive pas à évoquer ces souvenirs très précoces parce qu'on n'arrive pas à se remettre dans le contexte dans lequel on les a encodés. Et donc, effectivement, apprendre avant le langage et avant la motricité, c'est pas pareil que s'en souvenir une fois qu'on parle et qu'on bouge.
Est-il possible d'effacer nos souvenirs douloureux comme dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey ?
Avant tout, ce que nous attendons de vous, Monsieur Barish, c'est que vous rentriez chez vous et que vous rassembliez tout ce que vous possédez qui peut avoir un rapport avec Clémentine. Absolument tout. Nous nous servirons de ces objets pour dresser une carte des souvenirs de Clémentine dans votre cerveau. D'accord ? Nous aurons besoin de photos, de vêtements, de cadeaux, de livres qu'elle aurait pu vous offrir, de CD que vous auriez acheté ensemble, d'articles de journaux. Nous allons débarrasser votre maison, débarrasser votre vie de Clémentine. Et une fois que la carte sera établie, nos techniciens procéderont à l'effacement chez vous ce soir. Comme ça, demain matin, vous vous réveillerez dans votre lit, comme si rien ne s'était passé, avec une nouvelle vie qui vous attend.
Alors, comme dans le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nous avons tous vécu des événements difficiles avec ce rêve, parfois, de les effacer de sa mémoire. Est-ce possible, Francis Eustache, je rappelle que vous êtes neuropsychologue?
Alors, chez l'animal, il y a des expériences qui montrent qu'on peut dégrader des traces mnésiques, des traces de mémoire. Bon, dans l'espèce humaine, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable, même si on a vécu des moments extrêmement difficiles. Je pense que tous les scientifiques et les thérapeutes s'accordent sur le fait que le but, c'est de les rendre, c'est évidemment facile, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de rendre ces souvenirs douloureux acceptables, de pouvoir les inscrire dans cette identité narrative qui était évoquée tout à l'heure, plutôt que de les effacer. Les effacer, c'est ce qui pourrait peut-être arriver de pire en plus, parce que évidemment, ce serait un spectre de souvenirs qui serait encore plus difficile à édulcorer, à apprivoiser qu'un véritable souvenir.
Sylvie Chocron.
Oui, c'est effectivement exactement cela. Souvent, on voudrait effacer les souvenirs et on n'y arrive pas. Moi, je me souviens d'une patiente qui voulait effacer tous ses souvenirs de la Shoah et qui oubliait tout par ailleurs, sauf ça. Et donc, en fait, est-ce que c'est effacer les souvenirs ce qu'on voudrait ou effacer la charge émotionnelle? Et c'est effectivement ce qui est en train d'être tenté actuellement avec des médicaments ou des techniques comme EMDR, les mouvements oculaires rapides, qui sont supposés enlever la charge émotionnelle, mais pas supprimer le souvenir.
Bonjour Emmanuel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Lille.
Oui, j'appelle de Lille.
Quel est votre témoignage, Emmanuel?
Alors, je suis orthophoniste et avec le temps, dans mon approche thérapeutique, je me suis formée à l'hypnose et à l'EMDR. Mmh. Et j'observe que le souvenir peut vraiment être un énorme support thérapeutique très riche quand il y a... voilà, j'ai en tête l'exemple d'une personne qui est venue consulter, qui perdait son appétence au langage, avait des pertes de mémoire, déficit d'évocation lexicale. Mmh. Et puis aussi perdait un petit peu le sens du goût de la vie. Et je lui ai proposé de faire un peu d'hypnose. Et en se reconnectant à son souvenir, pas de manière cognitive, mais de manière sensorielle, sensitive, sensuelle, elle s'est reconnectée à un moment d'apprentissage où elle avait un élan vital très fort. Elle avait quitté son mari violent et puis elle s'était retrouvée dans une petite chambre assise sur un matelas à déguster un cornet de frites. Mmh. Et toutes ces sensations, tout ce qu'elle ressentait, le goût, la chaleur des frites, l'odeur, quand elle a réouvert les yeux après la séance d'hypnose, elle était... de joie et vraiment elle avait reconnecté à quelque chose dont elle n'avait plus du tout souvenir cognitif.
Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. La liaison est hélas un peu médiocre. Un mot de conclusion, Sylvie Chocron. Est-ce que on peut se dire que le recours aux beaux souvenirs rend la vie plus belle dans les moments difficiles? Depuis le début de la pandémie, on s'en rend bien compte, mais qu'il faut laisser peut-être la place, à tous ses sens et laisser de côté peut-être des outils numériques qui peuvent agir comme des filtres entre soi et la réalité.
Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de meilleur voyage qu'un voyage au cœur de sa mémoire, avec tous les sens, toutes les émotions, etc. Et qu'il faut effectivement préserver cette richesse qu'on a et voilà, essayer de ne pas la déléguer à tous nos outils technologiques.
Merci Francis Eustache d'avoir participé à cette émission. Merci Sylvie Chocron, le titre de votre dernier livre.
Une journée dans le cerveau d'Anna, les éditions Erol.
Merci Caroline Pénaud, votre dossier Merci. Peut-on faire confiance à ses souvenirs est à lire dans le tout dernier numéro de Ça m'intéresse. Demain, nous recevons notamment le romancier Grégoire Delacour qui témoigne de l'abus sexuel dont il a été victime dans l'enfance. Comment expliquer le silence, le déni qui entoure l'inceste? Nous attendons vos témoignages dès maintenant en laissant un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.